10h41, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. On est avec vous jusqu'à 14h. Mon nom, c'est Yann Marceau. Son nom à elle, c'est Audrey Pinchot.
Tu t'es pas trompé, bravo.
5 et 11. Une grande fille.
Grand fille, petit gars.
Ce qui se passe avec le soleil, tu me l'as pas ramené, on l'avait hier.
Écoute, j'ai essayé de faire ma job un matin, visiblement, il a pas voulu suivre, c'est difficile.
Je ne sais pas dans ton coin quel genre de température il y avait. Moi, j'étais dans le secteur de Val-Bélair hier soir, j'étais chez nous. Puis, il y avait de la vie dans la rue,
oui,
à 9h le soir, 10h, j'entendais mes voisins sur les terrasses. Je parlais avec quelqu'un, il y a de ça quelques secondes, qui me disait, moi, j'habite dans le secteur de Limoilou, je regardais ce qui se passait sur la 3e avenue. Et ma mère, il y avait des gens qui prenaient une petite bière.
Oh oui, non, mais c'est
sur les terrasses.
Sa vie, là.
Ah oui.
Oh oui.
Vraiment, vraiment, vraiment. Actuellement, sur Québec, c'est autour de 24 degrés. Avec le facteur humidex, on nous parle d'une température de 30 degrés. Pour aujourd'hui, c'est 40 % de probabilité d'averse, là, si ce n'est pas commencé dans votre secteur. Ça se peut que dans les prochaines minutes, ça arrive. Des risques d'orage pour ce qui est de cet après-midi. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé, minimum de 11. Demain, généralement ensoleillé selon Environnement Canada, avec un maximum de 24. Et pour ce qui est du week-end, là, le topo a changé. Peut-être un peu de pluie pour samedi avec un maximum de 19. Et dimanche, gros soleil, maximum de 22.
C'est rare à cette heure-ci, mais il y a déjà des petits problèmes de circulation si vous êtes sur la capitale direction Est en ce moment. À la hauteur d'Henri IV, quelques ralentissements. Laurentienne Sud, vous allez chercher la capitale direction ouest. C'est au ralenti, évidemment, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 88-971-102 texto.
Parfait. Tellement content de le recevoir pour une deuxième fois. Son nom, c'est Frédéric Keck, qui est directeur adjoint partenariat et itinérance au CIUS de la capitale nationale. C'est un ancien travailleur de rue. Et Anthony Vaillancourt, qui est avec nous aussi pour une première fois, qui est coordonnateur de l'équipe de liaison itinérance au CIUS de la capitale nationale. Bonjour, messieurs. Merci d'être là.
Merci pour l'hospitalité.
Ma blonde a pogné à 2 minutes. On est en train de regarder pour un condo dans le secteur de Saint-Roch. Puis moi, je suis né là. Fait que je suis habitué de voir des affaires des fois qu'on voit pas dans le fin fond de Beauport. Et elle m'a fait remarquer qu'il y avait un homme qui était couché le long du métro qui est situé dans le secteur Saint-Roch. Mm-hmm. Il était couché par terre avec une couverte sur la tête. Puis pour moi, j'ai pas eu... Tu sais, moi, c'est juste normal. C'est... Oui, c'est de l'itinérance. C'est des gens qui sont sans-abri, des gens qui sont parfois peut-être intoxiqués. Puis là, elle m'a dit... C'est une infirmière clinicienne, là. Elle avait jamais vu ça de sa vie, à part d'un film. Elle m'a dit, Yann, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie si, en dessous de la couverte, le monsieur, il est correct? Puis j'ai réalisé à quel point j'étais comme désensibilisé à ça. Puis à quel point, quand t'arrives avec un œil extérieur, ces gens-là te ramènent un peu sur sur ton territoire. C'est-à-dire, regarde, il y a un homme qui est couché, mm-hmm. puis visiblement, ça va pas. Y a-tu des gens qui sont là pour eux? Bien, on va avoir les réponses aujourd'hui, puisqu'on a M. Keck et M. Vaillancourt qui sont avec nous. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des gens comme ça qui se disent, « Mais pourquoi il y a des gens comme ça dans la rue? »
Bien, en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions par rapport à c'est quoi qui est en train de se passer dans notre région.
Oui.
Parce que, tu sais, on en parlait un petit peu la dernière fois aussi, là, entre il y a 15 ans puis maintenant, là, le phénomène, là, il change, il évolue, oui. puis il prend de l'ampleur. Puis plus il prend de l'ampleur, bien, plus il y a des gens qui réalisent que, hey, ça existe, cette réalité-là. Ça peut générer toutes sortes de réactions, là, puis toutes sortes de questionnements aussi, là, mm-hmm. puis des enjeux de cohabitation, des fois des enjeux de, ben, tu sais, beaucoup d'empathie, mais des fois de la peur aussi, de dire, bien, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu sécuritaire? Y a-tu... Donc, c'est un peu tous ces enjeux-là là, qui font surface un peu. Puis là, ben, c'est de voir ben, comment est-ce que nous, comme réseau de la santé, mais d'abord aussi comme région, avec tous les acteurs qui doivent être impliqués au niveau de l'itinérance, ben, comment est-ce qu'on peut avoir un réel impact là, sur ce phénomène-là? Mm. Un, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis deux, agir aussi. Là.
Puis Anthony, y a-tu des gens qui vont regarder justement en dessous de la couverte si le monsieur il est correct pendant qu'il dort sur le trottoir?
Il y a effectivement des gens, j'ai envie de dire que collectivement, on pourrait le faire aussi. Il y a des gens, c'est toujours un peu sensible de des fois d'aller... On est toujours sur un terrain... sensible à voir est-ce qu'on va déranger quelqu'un,
exact.
Est-ce qu'on va voir quelqu'un qui est peut-être aussi en détresse.
Ou est-ce que la personne va réagir envers nous? Je pense que la peur est surtout de là.
Parce que des fois, quand on me réveille trop tôt le dimanche matin, je pars durable. Fait que ça se peut que quelqu'un
Imagine.
Qui dort sur le trottoir aussi soit.
Quelqu'un qui dort sur le trottoir, peut-être quelqu'un qui a accumulé aussi une dette de sommeil dans les derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Donc, la réponse est oui. Il y a des gens qui vont regarder en dessous des couvertes. Il y a plusieurs intervenants de tout azimut, des travailleurs de rue. Il y a des gens qui sont concernés aussi par des bons citoyens qui sont concernés par la situation. Voilà.
Les services qui leur sont offerts à ces gens-là, parce que moi, j'ai grandi avec eux autres, j'ai connu Saint-Roch magané, j'ai connu Saint-Roch qui s'est vraiment amélioré, puis là, après ça, ben, je retourne à Saint-Roch pour regarder pour des condos dans le coin, puis là, je vois que Saint-Roch recommence à être un peu plus magané. Les services qui leur sont offerts à ces gens-là, les gens qu'on appelle des travailleurs de rue, ils sont à quel endroit exactement, tu sais?
Ben, l'essence du travail de rue, puis là, je ne suis pas travailleur de rue, comme on disait tout à l'heure, ouais. Mais l'essence du travail de rue et des intervenants de proximité, c'est de délocaliser des services pour être directement dans la communauté des personnes, des populations qui sont les plus vulnérables. Donc, autant les travailleurs de rue que les intervenants de proximité qui viennent un peu de partout,
ouais.
Sont habituellement sur le terrain. L'objectif, la philosophie de l'intervention de proximité, c'est d'être là où il y a un besoin. Donc, de décentraliser les services qui sont dans les grandes institutions, puis de les amener vers les gens qui sont à la rue, qui sont pas en mesure de se rendre dans les institutions.
Le Monsieur défi Keck, qu'il y a,
c'est-tu moi qui vois trop grand? Je trouve ça inacceptable de les laisser dans nos rues comme ça, dormir par terre. Tu sais, c'est mon grand rêve, ce serait d'avoir un endroit pour ces gens-là, comme on pouvait avoir dans le temps, pour qu'ils puissent avoir un abri avec des gens qui sont là autour pour s'en occuper, puis nourris trois fois par jour. Puis si jamais ils veulent sortir dans la population, ben on s'assure qu'ils ne se couchent pas dans le milieu de la rue pour dormir.
Ben, tu sais, puis c'est ça, ça peut donner l'impression que, y a plus de monde, il doit avoir moins de services.
Ouais.
C'est le contraire, en fait. On n'a jamais eu autant de services qu'on a présentement. Tu sais, donc, il y a vraiment eu du développement qui s'est fait beaucoup pour réagir face à la situation. Mais tu sais, vous parlez des condos, là, oui. Dans Saint-Roch.
Oui.
Ben, déjà, juste condos dans Saint-Roch.
Oui.
Tu sais, il y a 15-20 ans, là. On parlait pas de condo dans Saint-Roch, on parlait de logements.
Moi, j'étais sur du Roi et de la Reine, j'ai fait un peu Saint-Vallier aussi, puis c'était des beaux logements vieux, ancestraux, qui étaient vraiment pas chers.
Vraiment pas chers, puis des fois qui avaient besoin d'un peu d'amour quand même aussi, hein, c'est ça. Mais c'était du locatif, puis c'était du locatif abordable. Puis là, quand on pense au quartier, là, on se remonte en arrière, là, une quinzaine d'années. Là. C'était quoi les quartiers locatifs abordables? Saint-Roch, Saint-Sauveur, Stokane, Limoilou. T'sais, on était tous dedans. Là.
Ouais.
Puis là, après ça, tu avais la périphérie où ça se développait un peu plus. C'était un peu plus tranquille, mais ça dépendait. T'sais. Puis là, tu peux avoir de tout dans ces quartiers-là. Ce qu'on trouvait aussi beaucoup, moi, mettons, là, dans mon passé d'intervenant, là, ce qui nous indignait un peu comme situation, c'est-à-dire on accompagnait des gens dans leur logement, puis on disait, hey, ça a vraiment, au niveau salubrité, entretien, on parlait beaucoup de logements abordables et de qualité, mais le de qualité, là, c'était le gros enjeu souvent auquel on voulait s'attaquer. Là, maintenant, là, ben, on est juste content que le monde ait un toit sur la tête. Là.
Oui.
Puis, tu sais, quand on parle de logement abordable, dans le temps, là, le barème logement abordable, là, je vous le mets bien, bien rough, là. C'était 100 $ la pièce. Vous devez avoir connu ça.
C'est ça. Ben, aussi, moi, là, à peu près... j'étais au-dessus de l'épine et cloutier, à côté de l'Aubrivière.
Oui.
Puis, c'était 350 chauffés éclairés par mois.
Mm. Abordable, ben, maintenant, ça peut ressembler à quoi?
Bien, le barème abordable, c'est 1 000 $ par mois.
Okay.
Puis pas chauffé,
est-ce
pas éclairé.
Est-ce que quelqu'un sur l'aide sociale est incapable de se payer?
Ben non, c'est là, tu sais, prenez-moi pas au mot, là, mais c'est à peu près ça, là, 829 $ par mois, là, l'aide sociale actuellement.
Ça, c'est quand ils sont pas en mesure de travailler ou...
Non, ça, c'est ceux qui sont en mesure de travailler. Avec une restriction à l'emploi, là, ça peut monter là, 1 200. Là, Anthony a peut-être plus les chiffres à jour que moi.
On peut parler autour de 1 200, mais encore, quand on parle d'une contrainte temporaire, par exemple, je travaillais, je me suis blessé ou je vis un enjeu, une dépression, un enjeu de santé mentale qui est davantage transitoire, bien là, on va être autour de 900 $ par mois.
Okay.
Ce qui est encore loin d'un revenu suffisant pour se payer un logement à un prix standard. Ouais.
Fait que c'est ça la réalité dans laquelle on est. T'sais, on a l'impression peut-être qu'il y a moins de services qu'il y en avait auparavant. Il faut développer des services. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, ce qu'il faudrait qu'on arrive à retravailler dans notre filet de sécurité actuel, là, c'est de trouver des places en logement pour nos plus défavorisés dans la société actuelle.
Mais c'est parce que
là.
C'est ça que j'allais dire, Frédéric, c'est qu'à un certain point, on a des services, mais les services sont submergés, si je me trompe pas. Du moins, c'est ce qu'on entend là.
Oui.
Au final, ça revient un peu au même. J'ai l'impression on en
manque
de services.
C'est qu'on en développe, mais il y a plus de gens qui arrivent avec des besoins.
Fait qu'on s'en sort pas.
Ben, tu sais, je vous dirais pas qu'on s'en sort pas, parce que je pense qu'à quelque part, collectivement, on s'améliore, puis il y a vraiment du monde qui travaille très très fort pour accompagner les gens. Là. Puis Anthony et son équipe en fait partie. Mais je pourrais vous nommer toute une multitude d'organismes communautaires là, qui se donnent cœur et âme là, pour être sûr que ça marche puis pour répondre à l'affluence des gens qui arrivent. Mais la particularité, c'est le but un peu aujourd'hui, c'était de faire le parallèle à, dans le temps versus maintenant, comment oui. ça a évolué et tout ça. Là. Mais ça fait 15 ans qu'on a le même discours de « Hey, le visage des gens qui se présentent dans nos services change. » Mais c'est parce que ça change tout le temps. Puis, ben à chaque fois qu'on pense que « Ah, mais là, on pensait jamais que ce profil-là de population arriverait davantage », bien, il y a toujours un autre groupe de population qu'on pensait qui était à l'abri, qui finalement ne l'est pas. Puis, tu sais, dans les nouvelles réalités qu'on voit de plus en plus, puis, tu sais, Éric Boulay de Lauve-Rivière en parle souvent mmh. aussi, c'est, ben là, maintenant, il y a des travailleurs qui viennent chercher des services, moyenne. Là.
Ouais.
C'est que puis là, ben, ils viennent pour la soupe populaire.
On
mais...
avait la bouchée généreuse, nous, quand on est allé faire un petit tour de bénévolat. Là, et j'ai remarqué des gens en me disant « Hey, tabarnouche, ça pourrait être mon voisin. » C'est dans le sens qu'on a une vision des fois des gens qui sont dans la rue ou des gens qui sont peut-être un peu moins nantis. On dirait qu'on a peut-être une mauvaise ouais. vision d'ailleurs, mais on a une image. Tandis que maintenant, c'est des gens qui semblent bien normal, qui travaillent souvent à temps plein et puis qui s'en sortent pas malgré ça, là.
Ben, le milieu de l'itinérance n'est pas épargné par ça. Hein. Justement, oui. on disait que le phénomène prenait de l'ampleur, mais le visage des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance, ben, y a une multitude de personnes avec différents profils, différents bagages qui se retrouvent en situation d'itinérance. Avant, on pensait à la personne qui consommait... Qui se retrouvait, bon...
Qui faisait des mauvais choix de vie.
Qui faisait des mauvais choix de vie. C'est ça, on a toujours, dans le langage populaire, on a toujours cru que c'était des gens qui faisaient le choix de se retrouver en situation d'itinérance et d'aller consommer. Aujourd'hui, ben quelqu'un, je lisais récemment un article qui disait qu'on est à 3 événements de se retrouver en situation d'itinérance. Bon, c'est un peu un raccourci pour dire qu'un peu n'importe qui, dans certaines circonstances de vie, pourrait se retrouver avec des difficultés majeures et éventuellement se retrouver en situation d'itinérance. Donc, actuellement, on voit des gens qui ont été fonctionnels toute leur vie, qui ont peut-être perdu un emploi, qui, dans le phénomène de la crise du logement, qui n'a plus de logement abordable, mm-hmm. séparation, mm-hmm. des antécédents de consommation qui peuvent ressurgir dans des moments difficiles. Ouais. Ben en fait, c'est là où on dit ben ouais. personne n'est vraiment épargné.
Puis les organismes, comment ils s'en sortent, Anthony? Parce que tu fais le pont avec ces organisations-là dans la ville de Québec qui essaient d'aider ces gens-là. Là. Si on est au coup puis qu'on est déjà plein.
Ben les organismes sont excessivement contingentés à l'heure où on se parle. Chaque jour, il y a des nouveaux visages qui se présentent. Il y a des gens qui reviennent parce que l'itinérance, il y a des gens qui, de façon épisodique, revivre des difficultés, ils vont se retrouver de nouveau dans les ressources communautaires. Mais il y a aussi des gens qui se retrouvent subitement en situation d'itinérance, alors qu'ils ont été fonctionnels pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ces gens-là, on essaie de les capter rapidement pour les sortir, pour éviter la chronicisation de l'itinérance. Mais en même temps, le défi, c'est de travailler sur tous les fronts. Fait que de ne pas oublier non plus la personne qui est peut-être là depuis 5 ans, 10 ans et qu'on voit se détériorer. Donc, le défi en ce moment, c'est de vraiment travailler sur tous les fronts, de pouvoir accompagner autant la personne qui est en difficulté majeure depuis longtemps que la personne qui se retrouve en subitement en situation d'itinérance pour éviter de la voir se détériorer aussi. Okay. Ouais.
Est-ce que, ça va paraître être une question bien bizarre, M. Keck, là, mais est-ce qu'on a le droit de contraindre physiquement quelqu'un à aller se faire désintoxiquer?
Non.
On n'a pas le droit de le faire. Fait qu'on prend un itinérant, il n'est plus là pendant tout, il représente un danger pour lui-même, peut-être même un danger pour la société quand il est intoxiqué, il peut être parfois ouais. agressif. On n'a pas le droit de dire, toi, ouais. ça fait 3 fois qu'on t'avertit, là, tu t'en vas en désintox 30 jours. On n'a pas le droit de faire ça.
Non, mais tu sais, l'idée, là, mettez ça à l'inverse. Là. Toi, mettons là, que tu files pas bien.
Ben, si puis, c'est un suicide à petit feu que je suis en train de faire, ouais. M. Keck, ben, j'apprécierais qu'Audrey dise, Yann, toi, là, je t'amène à Robert Giffard, tu vas aller te faire soigner.
Mais, tu sais, cette limite-là, elle existe. Mais c'est une nuance qui est... puis, tu sais, c'est possible. Là. Si on voit que vraiment là, quelqu'un là, est dans une dynamique suicidaire, ouais. Ben, plus ou moins avouée, puis que là, ben, on est vraiment préoccupé pour sa santé. Elle est rendue très avancée dans... Ben oui, là, c'est sûr, là, il y a toutes les questions d'aptitude qui peuvent être mises en question. Il peut avoir un arrêt d'agir, il peut avoir toutes sortes d'éléments comme ceux-là. Mais l'idée en arrière de, oui, mais quelqu'un qui ne veut pas s'aider, on peut-tu le forcer à s'aider? Parce que c'est un peu ça, hein, qui est en arrière de la question.
Parce que c'est un suicide à petit feu.
Bien, c'est ça, mais cette limite-là, là, est quand même, c'est une mesure.
Qui rentrent là-dedans aussi?
Ben oui, mais ouais. C'est une mesure d'exception. Là. Moi, le jour où quelqu'un va me demander de rentrer à Robert Giffard contre mon gré, là, il est mieux de s'attacher, là. Puis il est mieux d'avoir des vraiment très, très bons arguments légaux pour justifier ça. Puis je suis sûr que ce serait pareil pour toi ou pour un de tes proches. Donc là, la question, c'est de dire, ben OK, c'est quoi la limite acceptable dans tout ça? Puis ben, tu sais, je pense qu'il y a... peut-être de quoi à réfléchir aussi autrement sur c'est quoi les... parce qu'on revient souvent sur la dépendance, hein? Puis là, on fait l'amalgame entre la dépendance puis la rue. Puis on a souvent tendance à penser que les habitudes de dépendance mènent à la rue. Savez-vous quoi? Il y a 15-20 ans, là, c'était excessivement vrai. C'est clair, là, parce qu'il y avait un filet de sécurité logement que même si tu étais un consommateur actif, puis tu étais quand même capable de te loger. Puis souvent, ben, c'était quand tu avais usé vraiment toutes tes stratégies logement que tu te retrouvais à la rue. Donc, la dépendance venait vraiment à la rue. Mais l'amalgame qu'on voit de plus en plus puis qui est méconnue, c'est que la rue mène à la dépendance aussi. Mmh. Puis c'est le phénomène inverse. Puis tu sais, j'ai le goût de vous dire, là, peut-être pour des auditeurs aussi, là, tu sais, quand on vit une mauvaise semaine, là, parce que tu as une mauvaise nouvelle à la job, parce que tu es en conflit avec ta conjointe, peu importe, là, ben tu dors moins bien, tu consommes plus d'alcool en général. Puis là, ben je parle pas de population, je parle de moi, là.
Ah non, mais
de vous
on mérite aussi, le verre de vin, là.
Ben
on
oui,
se dit, ah, ça va être une grosse semaine, on va prendre un verre, là.
T'sais. Ben c'est ça. Puis j'avais dit pas avant vendredi, mais sais-tu, là, avec la journée que j'ai eue aujourd'hui, on va s'ouvrir une bouteille.
Eux autres, c'est la même chose.
Ben c'est un peu cette logique-là, mais dans la situation critique, là, là, toi, tu as eu une mauvaise semaine, mais tu as encore un toit sur la tête, ta famille est encore là autour de toi, tu as un réseau social quand même, puis des amis qui sont là, qui peuvent te soutenir. Quand on est dans une situation de rue, comme on rencontre, là, puis qu'Anthony rencontre avec ses collègues sur le terrain, eux autres sont rendus beaucoup plus loin là, dans la mauvaise semaine. Là. C'est rendu un mauvais mois, une mauvaise année.
Mais
puis,
le pire,
le défi de...
j'arrive à comprendre parce que honnêtement, c'est plate d'une main, mais moi, demain matin, mettons, là, séparation, pas capable de me payer un logement parce que ça faisait bien à deux, mais tout seul, pas possible, puis que je me ramasse dans la rue. Là. Probablement que par la peur, l'inconfort, là, probablement que je finirais par me geler parce que le temps passerait plus vite puis que je me rendrais pas trop compte de ce que je vis. Puis là, ben, ça mène à une dépendance. Puis j'arrive à comprendre complètement ce genre de situation.
Puis malheureusement, c'est ultra disponible sur la rue. Tu sais, il y a même là, dans certaines formations, puis entre autres pour les travailleurs de rue, ils le testent aussi. C'est-à-dire, ben, tu sais, avec les jeunes travailleurs de rue qui souhaitent commencer en travail de rue, là, ça se faisait beaucoup dans mon temps aussi. C'est-à-dire, vous allez passer une semaine sur la rue, ben, pas une semaine, une soirée sur la rue, là. Puis lâchez votre porte-monnaie, vos clés puis votre cellulaire, là. Puis allez faire un tour. Puis essayez de vous débrouiller à soir. Puis après ça, dites-moi comment vous avez vécu ça.
Tu peux être sans ressources là, assez rapidement. Là.
C'est excessivement déstabilisant. Puis on réalise pas à quel point on se sent vulnérable dans ces situations-là. Parce que quand tu as... Je sais pas, moi, je vais sortir d'ici, je vais me lever tantôt, là, je vais checker mon cellulaire, mes clés, mon portefeuille. Puis je fais tout le temps ça un peu partout parce que j'ai besoin de ces trois morceaux-là tout le temps. Puis s'il me manque un de ces morceaux-là, ben après ça, il faut que je refasse tout le chemin de ma journée. Mais quand tu n'as aucun des trois, là, ben tu fais comment là, pour te débrouiller? Ça fait que, tu sais, c'est cette logique-là que, tu sais, il faut comprendre le niveau de précarité dans lequel les gens se retrouvent. Est-ce même pour Anthony, des fois, rejoindre les personnes, puis dire, hey, écoute, on pourrait vraiment t'aider, là. Viens nous voir, là, puis demain, on va aller faire un tour à tel organisme, puis on va essayer de faire des démarches avec toi. Oui, mais je ne sais pas où je dors à soir. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger tantôt. Ça serait bien
Tes priorités ne sont pas les mêmes.
Bien, tes priorités ne sont pas les mêmes, c'est ça. Puis là, ben, la dynamique dans laquelle on se retrouve, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, en fait, qui se retrouvent à risque de cette situation-là. Puis j'ai le goût de vous faire d'autres parallèles aussi. Tu sais, on voit de plus en plus de jeunes couples, tu sais, jeunes vingtaines, qu'ils vont s'embarquer dans des dettes assez solides quand même aussi, parce que justement, tant qu'à payer 1 000, 1 500 pour un loyer, bien, ils vont s'engager, mettons, sur une dette pour une maison. Elle a une maison, tu sais.
Faut travailler.
Puis ça te prend, tu sais, une maison maintenant, c'est quoi? C'est 300 000 là, à peu près, là, pour avoir de quoi? De... Puis là, t'es pas au centre-ville. Puis
on,
t'es
est
pas
3,
dans...
on est 350, 400.
Ouais, 400.
Ben, c'est ça. Tu sais, ça fait que. Mais là, jeune professionnel. Là.
Ouais.
OK. Fait que là, t'es en couple, là, parce que là, tu sais, à deux, on va y arriver, mais tout seul, il n'y arriverait pas. Là, tu vis une séparation là-dedans. T'as ta dette, t'as ton. Ben, OK. Puis là, c'est quoi ton option? T'as une dette.
Vendre la maison.
Vendre la maison, mais là, tu vas-tu faire de l'argent ou tu feras pas d'argent?
Actuellement, vous allez faire de l'argent.
Bon, mais tant mieux si c'est le cas. Mais là, après ça, c'est de dire, OK, mais il faut que tu te reloges après.
Exact.
Puis là, tu te reloges tout seul.
Fait que là, le loyer qui était, mettons, l'hypothèque est à peu près de 1000$, là, tu te retrouves avec un loyer d'à peu près 1500, 2000$.
Les trois étapes là, que disait Anthony tantôt, là, écoute, ça, c'est la première. Là, après ça, si tu as un environnement familial qui est plus précaire, puis peut-être une tendance à t'aimer faire le party. Jusqu'à date, c'était drôle, c'était le party. Mais que là, le party, finalement, ben c'est ça devient plus juste la fin de semaine, mais ça devient 3-4 fois par semaine, parce que puis 5 fois par semaine, puis parce que tu trouves ça difficile ce que tu vis. Tu peux pas vraiment t'appuyer sur des gens.
Ah, tu plonges.
Ben, puis là, après ça, ben, troisième étape, ben, c'est la perte de ton emploi, parce que là, tu es tout le temps sur le party, ça marche pas.
Y a-tu de la...
ça va vite, là.
Y a-tu de la place pour loger tout le monde à Québec, ces itinérants-là? Est-ce qu'on a des endroits où ils peuvent aller dormir le soir en toute sécurité, hommes comme femmes? Puis je sais pas pourquoi j'ai une petite sensibilité du côté des femmes, mais j'ai passé à côté
passé à côté
du YMCA, puis il y avait deux, trois filles qui étaient là, qui étaient maganant, maudit. Je me suis dit, c'est sûr, eux autres, que ces filles-là doivent vivre l'enfer. Y a-tu de la place pour aller dormir chaque soir en toute sécurité?
J'aimerais pouvoir te répondre oui. Là, on travaille fort, en fait, pour développer des alternatives pour tout le monde.
On peut pas avoir dortoir pour eux autres, un dortoir homme, un dortoir femme. Tu sais, c'est 200 personnes, 300 personnes actuellement.
Mais on en a. Le défi qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, donc les besoins augmentent.
Ouais.
Puis là, on a commencé à travailler sur des mesures de répit, surtout pendant l'hiver, là. Parce que l'hiver, tu sais, avec le froid, il y a comme une autre coche là, qui s'ajoute dans le niveau de risque. Mais le répit, là, c'est, dans le fond, c'est des salles, tu sais, sécuritaires où le monde peut venir se réchauffer. Puis mais tu sais, t'as pas de lit là, t'as pas nécessairement... Tu sais, mais l'idée, c'est qu'au moins, il y a du monde qui sont capables de venir se sécuriser pour la nuit, pour une portion. Bon. Puis là, après ça, ben, on travaille sur l'hébergement aussi. Là, on a l'hébergement d'urgence, l'hébergement transitoire, puis le logement. Là, ce qu'on essaye de travailler comme stratégie, là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aide le milieu communautaire, puis il faut qu'on aide le milieu de l'habitation. Puis là, nous, on est le réseau de la santé, hein, ça fait drôle là, de dire ça, là. Mais on est, comme réseau de la santé, là, nous, on est extrêmement préoccupés de ce qui se passe dans le réseau de l'habitation actuellement. Parce qu'on voit l'impact que ça a sur nous, puis on fait comme, ouais, mais là, attends un peu, là, moi, je peux bien développer des services, là, mais je ne serais pas toujours capable de répondre à la vague qui pourrait arriver.
Les
là.
Budgets ont toujours augmenté ou ils ont diminué dans les dernières années?
Ils ont toujours augmenté. On est passé, là, si on remonte là, à il y a 15 ans, là, en itinérance, là, c'était 2,3 millions de budget qu'on avait là, en 2005, 2000.
Cet argent-là,
maintenant, on est à, mettons, 15-16 millions. Là.
Cet argent-là se rend-tu direct aux itinérants ou ça passe en salaire, ça passe en subvention?
Ça passe beaucoup, beaucoup en soutien aux organismes communautaires. Fait que tout ce que je te dis là comme budget, là, c'est quasiment exclusivement en soutien aux organismes communautaires. Donc, pour du développement de services, puis pour, de l'hébergement, mais oui, pour des intervenants, des travailleurs de rue, entre autres, pour du dépannage alimentaire, pour du dépannage vestimentaire, puis pas juste pour des services au centre-ville, parce qu'on veut pas, tu sais, on a besoin aussi que ce soit plus large. Tu sais, puis là, ben, tu parlais de la réalité des femmes, mais il y a la réalité des jeunes aussi dans le passage à la vie adulte, il y a la réalité des personnes âgées. C'est tous des éléments qui sont préoccupants. Là,
paraître insensible, M. Keck. Là. C'est juste que y a des gens qui me rapportent des trucs des fois, puis je me dis, ça me prend des réponses. Fait que je vais vous poser ces questions-là. Ça se peut-tu que Québec et Montréal soient rendus un resort pour les itinérants? Puis c'est la raison pour laquelle les itinérants, d'ailleurs, transitent vers chez nous, parce que tous les services sont là pour eux autres.
Je dirais pas, la
question.
J'imagine que vous avez vu l'article passer. Ils en ont un peu parlé.
Ben, la question est bonne parce que quand même eu pendant. Ben, il y a encore aujourd'hui une espèce de phénomène d'immigration dans l'itinérance.
Exact. L'été, des fois, des gens de Gaspésie qui descendent à Québec.
C'est ça. La réalité aujourd'hui, j'ai pas vraiment de données là-dessus. Par contre, il y a des gens qui viennent ici parce que oui, il y a des services et il n'y en a pas en région parce qu'on ne rejoint pas suffisamment de monde en région. De là à croire que c'est un tout inclus de venir vivre ici à Québec en situation d'itinérance, ben, je dirais qu'on est loin de là quand même. Parce que oui, il y a des services, mais comme on disait tantôt, les services sont excessivement contingentés. Mm-hmm. Aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui bascule en situation d'itinérance, il y a de fortes chances qu'il soit littéralement sur le trottoir. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que la journée où il se retrouve en situation d'itinérance, qu'il n'y ait pas un hébergement fixe là, pendant un mois, deux mois, trois mois pour avoir la chance de se revirer de bord. Il y a de fortes chances qu'il soit confronté en fait à une surpopulation dans le centre-ville, surtout ici à Québec. Là.
Comme à Montréal aussi.
Même ou à Montréal ça. Aussi, évidemment.
Mais on en voit de plus en plus, même à Trois-Rivières, c'est épouvantable comment ça a explosé. Mais, si on parle de Québec et Montréal, là, mais...
Mais c'est partout, puis ça, je peux vous dire, tu sais, le phénomène, il n'est pas propre à la région ici, là, il est provincial, puis je suis sûr même, tu sais, au niveau pan-canadien, là, ça évolue quand
même
beaucoup.
As-tu les chiffres du recensement?
Non, mais pas encore, là, ça prend, il y a tout un délai de traitement, là, ouais. Par rapport à ça, pour éviter les doublons et tout ça, mais dès qu'on va les avoir, on pourra vous refaire un topo là-dessus. Mais tu sais, juste revenir vite, là, ouais. Tu sais, on parle de Trois-Rivières ou de... Mais tu sais, les Charlevoix, Portneuf, la Côte-de-Beaupré,
l'Île d'Orléans. Ils ont des différences aussi?
Ben oui. Mais en fait, ce qu'ils vivent là, plus davantage, c'est de l'instabilité résidentielle. Fait qu'ils ont des gens qui jusqu'à présent arrivaient à se loger, puis là, tout d'un coup, ils n'y arrivent plus. Puis là, ben OK, mais je fais quoi? Puis ben dans des secteurs comme ceux-là, ben d'ouvrir un refuge pour les volumes de population qu'ils ont avec des services 24/7 puis tout, c'est pas réaliste. Fait que forcément, ils reviennent davantage vers les centres-villes. C'est là que sont les services avec intensité. Là, ce qu'on essaye de faire, ben, c'est de voir ben, comment est-ce qu'on peut soutenir ces milieux-là dans le développement d'initiatives qui répondraient à leurs besoins propres. Sans nécessairement ouvrir des refuges, ben, on peut-tu donner des loyers de dépannage temporaire? On peut-tu travailler avec des acteurs locaux pour maintenir du logement abordable ou faire de l'hébergement transitoire? Y a-tu des éléments qu'on peut travailler avec les acteurs sur place? Puis le monde sont hyper créatifs. Là. C'est ça, tu sais... Ça peut vous sembler pessimiste, là, un peu le portrait qu'on fait là, de la situation actuelle, là, mais soyez assurés là, qu'il y a du monde qui sont hyper engagés là, pour
ça,
trouver des
pas.
Solutions.
Non, puis j'en doute puis pas, mais vous faites partie reste, de ces gens-là.
Puis ça reste un peu dans l'ombre aussi, parce que le monde, ils font pas ça pour bien paraître, ils font ça pour servir des gens qui ouais. voient dans le besoin.
Est-ce que, je vais avec des préjugés, rouvrir Robert Jouffort, ça pourrait-tu aider?
Bien, Robert Gifford, c'est l'Institut universitaire en santé mentale, c'est dans le CIUS maintenant. Ouais. C'est encore ouvert, là. Robert Gifford, ça
comme,
roule encore.
Comme c'était avant, moi, j'étais un vieux bonhomme, là. Ouais. Je me souviens qu'il y avait Robert Gifford qui était là, tous les soins étaient donnés là. Il y en a qui pouvaient rester à l'intérieur des murs pour se protéger et protéger les autres. Puis il y en a d'autres qui avaient des sorties. Nous autres, on avait Meloche, là. Je ne sais pas si vous l'avez connu à l'époque, mais il venait nous jaser puis nous demandait notre date de fête. Puis là, six mois plus tard, on le revoyait. Puis on me dit, Meloche, c'est quoi ma date de fête? Puis là, il disait, toi, c'est telle date. Il s'en souvenait. T'sais, puis on côtoyait ces gens-là. Ça avait de l'air à bien aller. Mais il est en sécurité. Là. On dirait qu'ils n'ont plus de place pour se sentir en sécurité. Puis je reviens à ces femmes-là qui étaient à côté du YMCA. Il pleuvait, fait qu'ils étaient comme en dessous pour se protéger de la pluie. Ces femmes-là doivent vivre l'enfer dans la rue. Parce qu'il y a de la drogue, bien entendu, mais il y a des hommes qui ne savent même plus ce qui est correct de faire et ce qui ne l'est pas. Ils doivent constamment se faire achaler. Il faut les protéger.
Oui, mais là, tu sais, mettons, pour ces femmes-là, la solution, c'est pas l'Institut universitaire en santé mentale. T'sais, le parallèle, il faut faire attention.
Mais je parle plus d'un gros endroit où on peut toutes les accueillir avec tous les services qui sont à l'intérieur là. Puis tout dépendant des besoins de la personne, on peut l'aiguiller à l'intérieur de la bâtisse. Ouais. C'est comme si Robert Jouffort était dans le temps.
Bien, c'est ça. Mais le Robert Jouffort, c'était beaucoup axé sur la santé mentale puis la santé mentale grave. C'est un peu dans le profil que tu décris. Dans cette perspective-là, tu sais, avec tout ce qu'on vient de se nommer tantôt, c'est pas ça les besoins là, actuellement. Là. Puis, tu sais, des fois, les gens, on fait l'amalgame des gens dans la rue. Oui, mais on voit bien, ils vont pas bien. Là. C'est sûr qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Bien, c'est un peu la même affaire qu'avec la toxicomanie tantôt que je vous disais. Là. Passez un mois dans la rue, vous allez voir, tu sais, ça se peut
que
vous parliez un petit peu
tout seul. C'est un autre pan, mais il y a des gros enjeux de santé mentale aussi qui sont pas réglés, par exemple, au Québec. Là.
Parce que quand on parle avec les policiers, M. Keck, c'est 80% des interventions au centre-ville de Québec qui touchent la santé mentale. Les policiers sont pas formés comme vous. Là. Eux autres, ils veulent faire leur job, ils veulent faire le bien, ils veulent éradiquer le mal. Mais quand ils arrivent avec un itinérant ou quand ils arrivent avec quelqu'un qui est aux prises avec la drogue, avec des problèmes de santé mentale, sont un peu dépourvus, nos policiers. À un moment donné, il faut qu'il y ait une job qui soit faite. Puis vous la faites, tu sais, vous semblez travailler extrêmement fort pour que ça se règle, mais visiblement, année après année, il y en a de plus en plus.
Oui, puis tu sais, là, il y a plein d'éléments là, dans ce que vous avez amené. Là. Fait qu'on peut les prendre un par un, mais si on part par les derniers, là, au niveau des services de police. Tu sais, les services de police ont beaucoup évolué aussi là, dans leur manière de travailler les choses. Il y a 15-20 ans, là, les services de police étaient dans une approche répressive.
C'était rough, oui.
C'est ça. Puis, tu sais, c'était des campagnes de tickets, puis ça finissait par de la détention. Là, maintenant, on est ailleurs. Là. Puis là, les services de police, entre autres le SPVQ, a une équipe multi qui est dédiée, mettons, aux enjeux plus du centre-ville, mm-hmm. puis aux enjeux liés à l'itinérance. On travaille vraiment étroitement avec eux autres sur une base régulière. Puis, tu sais, tous ces enjeux-là, on en parle. Là, après ça, l'amalgame santé mentale, ben oui, c'est sûr, là, il y a beaucoup de gens là, à la rue qui ont des problèmes de santé mentale. Il faut faire la nuance entre des problèmes de santé mentale, tu sais, je vous dirais génériques, des problèmes de santé mentale graves, là, qui sont plus de l'ordre de, tu sais, de la schizophrénie ou des troubles bipolaires. Là. Ouais. C'est pas la même affaire. Là. Mais après ça, des gens qui sont extrêmement anxieux, des gens qui se parlent tout seuls, des gens qui ont des très, très grands symptômes dépressifs, des gens, ben oui, là, tu sais, ça, ça existe là, sur la rue, pour toutes les raisons qu'on s'est nommées tantôt. Sur la réalité plus particulière des femmes, ben, tu sais, l'idée, là, c'est qu'on est moins dans l'idée d'un un immense centre de services pour répondre à tous les besoins. Puis je vais y revenir tantôt parce qu'on a quand même de quoi qui se travaille dans nos cartons dans cette perspective-là. Mais il y a aussi plus la perspective de, ben OK, il y a tellement de profils différents que ça nous prend plein de petits services adaptés aussi là, pour nous permettre de répondre à cette pluralité-là des profils de personnes. Pour les femmes, là, il y a un organisme extraordinaire qui existe à Québec qui s'appelle le Projet Lune. Si jamais un jour ça vous tente de les recevoir, là, vous avez déjà reçu. Écoutez, ils sont en plein cœur de Saint-Roch. Puis je suis sûr que les femmes que tu disais que tu as croisées là, je suis sûr qu'ils connaissent la ressource.
C'est une maison d'hébergement?
C'est une maison d'hébergement pour femmes. Puis c'est vraiment dans une dynamique de grande marginalité au niveau de la rue, puis pour les femmes très, très vulnérables. Fait qu'il y a quelque chose là, tu sais, c'est le genre de mesure qu'on dit, hey, ça peut être intéressant. Sur l'idée d'un centre de service plus générique, puis là, ben, je finis là, c'est juste parce que tu me lances trop d'idées en même temps. Fait que là, il faut que je les prenne une
à après.
C'est bon, c'est ça. Tu sais, il y a le projet du 14 Côte du Palais. Justement, tu étais pas mal au centre-vise, là, l'ancienne armée du salut qui était en face de l'Hôtel Dieu.
Ouais.
C'est un bâtiment qu'on a racheté pendant la pandémie.
C'est un ancien service d'hôtellerie pour hommes.
Oui, puis on a fait, pendant la pandémie, c'était un centre de convalescence. Vous vous rappelez des centres de convalescence?
Oui. Ça,
c'est pour les gens qui avaient la COVID puis qui n'avaient pas de place où aller. Il y avait le Concorde, puis il y avait l'Armée du Salut, qui étaient nos deux centres de convalescence. C'est nous autres qui opérait ça. C'est dans cette époque-là qu'on s'est connus. D'ailleurs, davantage Anthony puis moi aussi. Puis c'est Anthony qui a commencé à travailler plus avec nous autres dans cette période-là. C'est super intéressant ce qu'on a découvert avec le centre de convalescence. C'est qu'il y a plein de monde qui nous ont été référés. Puis on a des équipes, tu sais, plein de gens qui étaient libérés de nos intervenants aussi. Puis on s'est dit, ben écoute, on va profiter, on va faire d'une pierre deux coups, là. Quand c'est plus calme pendant la pandémie, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui sont dans la rue actuellement.
Exact.
Peut-être travailler différent sur ces profils-là qui sont un peu plus lourds puis qui ne veulent pas toujours venir vers nous, mais là, on a l'occasion d'aller vers eux autres. Fait que là, le projet de l'Armée du Salut, on en fait un centre multiservice, là. C'est ça l'idée. On va trouver un nom plus cute que ça, là. Mais ce qui va arriver là-bas, c'est que c'est plein de services dédiés à l'itinérance, puis des services spécialisés. Le monde va juste pouvoir se pointer à la porte. C'est l'idée du No Wrong Door. Il faudrait trouver un nom en français pour ça. Mais c'est l'idée de tu te pointes à la porte, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Puis tu te pointes pas à l'hôpital, tu t'en vas pas à l'urgence, tu t'en vas pas à Robert Giffard. Parce que Robert Giffard, on a beau dire, là, si tu proposes aux gens de la rue, ça te tente-tu d'aller faire un tour à Robert Giffard, je te jure qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Parce que, tu sais, il y a l'image, justement, de l'ancien hôpital psychiatrique qui est très présent.
J'y étais, ils m'ont envoyé là pour me faire poser un halter pour le cœur.
Ben oui, ben
pour écouter
c'est ça.
Mon cœur, puis je savais pas que c'était rendu là, mais pour moi, Robert Giffard, c'était l'institut où les gens qui avaient des problématiques allaient. Puis là, quand ils m'ont dit, vous devez aller chercher votre halter là, je me disais, t'as peu, là, ils vont-tu me garder?
Ben, est-ce qu'ils essaient de me prendre?
C'est mais... une technique pour me garder.
Imagine ta réaction à toi quand t'as peut-être déjà eu une mauvaise expérience aussi, où t'as peut-être été conduit à Robert Giffard. Ouais. sous motif légal, sans que ce soit ton souhait.
Ouais.
C'est pas le fun, ça.
Non, sûrement pas. Monsieur Vaillancourt, Monsieur Keck, dans les prochains mois, les prochaines années, vous voyez comment votre travail? Ça va-tu s'améliorer? Ce qui se passe pour nos gens qui sont en problématique dans la rue?
J'allais dire ce qu'on veut, c'est de continuer de développer en fait des projets qui sont diversifiés, travailler sur plusieurs fronts. Frédéric parle du 14 Côte du Palais.
Ouais.
C'est à Québec, on parle beaucoup de projets structurants là, pour tout autre thème.
Tu veux un tramway pour itinérant?
mais c'est de développer des projets qui seront davantage structurants où on pourra prendre la personne, l'accompagner de A à Z.
J'aime ça.
Comment on se doit d'agir comme citoyen avec les gens en situation d'itinérance dans la rue? T'sais, on est plein de jugements, on en parle depuis le début. On n'osera pas lever la couverte pour boucler la boucle du début de la conversation. Si on voit quelqu'un qui dort dans la rue, souvent, il y en a qui vont changer de trottoir, on ne sait pas si on dit allô. Comment on se doit d'agir pour essayer d'aider la situation?
Je pense qu'il y a deux choses qui sont deux éléments qui sont importants. Premièrement, de s'intéresser à la problématique, à la réalité, déjà là, c'est un beau premier pas, comme vous le faites aujourd'hui. J'oserais dire respecter aussi vos limites personnelles. Hein. Si on n'est pas à l'aise, si on est en contact avec quelqu'un qui est agité, si on n'est pas à l'aise, il n'y a pas d'obligation. C'est de respecter ses limites personnelles, respecter la personne aussi, éviter de porter des jugements, évidemment. Si collectivement on pouvait juste s'en tenir à ça, déjà là on a déjà...
Est-ce qu'on donne de l'argent? Est-ce qu'on donne de la bouffe?
C'est libre à vous en fait, ça peut pas nuire. Des fois, encore une fois, dans l'image collective, on va dire que si on donne des sous, ça va être pour aller consommer. Rendu là.
Puis, tu sais, moi, je dirais agir avec bienveillance. Là. C'est ça l'idée, un peu dans le même esprit. Là. Même si vous ne donnez pas d'argent, tu sais, vous avez le droit de sourire quand même.
Oui, vous avez le droit de dire bonjour.
C'est ça. Puis, vous avez le droit de dire bonjour quand même. Donc, c'est. Le monde apprécie, ouais. Le monde apprécie ça. Là.
Je voyais un reportage d'un homme de 70 ans qui, maintenant, ça fait quelques années, qui était dans la rue. J'imagine que vous l'avez vu passer, ce reportage-là. Je ne sais pas si c'était à l'écrit ou encore à la télé, mais l'homme, il ne regardait plus les gens dans les yeux parce qu'il n'aimait pas l'image que les gens lui renvoyaient.
C'est
d'une tristesse quand tu entends ça.
Fait,
comme M. Keck mentionne, c'est juste de leur sourire, de leur souhaiter une belle journée.
Ouais. Ça t'enlève quoi, en fait?
Oui, exact. Ça a été un plaisir de vous recevoir encore une fois, messieurs. Vous êtes réinvités dans les prochains mois. S'il y a d'autres initiatives qui sont faites, nous, on est bien intéressés à entendre parler de ça. On parle énormément de la cause de l'itinérance à Québec, à Boulevard, puis c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Puis on a peut-être l'intention dans les prochaines semaines, les prochains mois, de faire quelque chose pour certains organismes du coin. J'en ai pas encore parlé à mes patrons, mais là, ils viennent de le savoir. Donc, on aura l'occasion certainement de s'en parler.
C'est parfait. Merci de l'invitation.
Merci à vous autres.
Frédéric Keck, directeur adjoint partenariat et itinérance au CIUS de la Capitale-Nationale, un ancien travailleur de rue. On avait le plaisir aussi de jaser avec Anthony Vaillancourt, qui est coordonnateur de l'équipe de liaison itinérance au CIUS de la Capitale-Nationale. On fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021.
Le garage à Dan.